Ça jase à Lyon sur Jazz Radio et lyonmag.com avec Florence Lago.
Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon, je reçois Philippe Durand, cofondateur de Calistem. Philippe Durand, bonjour.
Bonjour.
Alors je le disais, vous faites partie de Calistem, une start-up à l'origine d'une véritable avancée dans la recherche contre l'infertilité. Après 20 ans d'études, votre équipe a réussi à obtenir la première spermatogénèse humaine in vitro du monde. Mais qu'est-ce que c'est exactement ?
La spermatogénèse, c'est la différenciation des cellules germinales mâles immatures, les spermatogonies, en spermatozoïdes qui sont les gamètes finis qui sont prêts normalement à féconder un ovocyte. C'est-à-dire qu'on est capable de passer dans un modèle de culture particulier de la spermatogonie, la cellule germinale mâle la plus immature, jusqu'au gamète fini qui est le spermatozoïde.
Alors 120 000 hommes sont concernés par un problème d'infertilité. Cette technique pourrait à terme soigner de 30 à 50% de cette population. C'est peu et c'est beaucoup à la fois, mais qui sont les personnes ciblées ?
D'abord, c'est pas facile d'avoir des statistiques dans toutes les régions du monde. Donc, il faut prendre ces chiffres avec toute la prudence nécessaire. Disons que nous, dès le départ, quand on a commencé à travailler sur la spermatogénèse il y a maintenant 22 ans, 23 ans, on ciblait deux catégories de patients. D'abord, les petits garçons qui sont traités pour cancer avant la puberté. Un monsieur qui est traité pour cancer, on va lui demander, avant les traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie, qui souvent peuvent entraîner des stérilités, on va lui dire d'aller au sécos et d'aller congeler des spermatozoïdes. Ça, c'est chez un homme qui a fait sa puberté. Mmh. Chez un petit garçon avant la puberté, il n'a pas de spermatozoïdes par définition. Il n'a que des cellules germinales immatures, ces fameuses spermatogonies dont on parlait tout à l'heure. Donc, le but, c'est de prendre un tout petit peu de pulpe testiculaire de ces petits enfants et puis de les apporter au laboratoire pour qu'on fasse des spermatozoïdes in vitro, qu'on congélera. Et quand ce petit garçon sera guéri, qu'il aura grandi, qu'il aura rencontré une copine, qu'il aura un projet parental, on prendra ces spermatozoïdes à lui pour l'aider à devenir papa. Donc ça, c'était une des premières applications que l'on voyait à notre travail sur les régulations locales de la spermatogénèse. L'autre aspect, c'est effectivement, il y a des hommes qui n'ont pas de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Donc dans ces cas-là, on leur fait une biopsie testiculaire et les biologistes, ils vont regarder dans ces petits morceaux de testicules s'ils trouvent un ou deux ou trois ou quelques spermatozoïdes qui vont à ce moment-là être récupérés et qui vont pouvoir être micro-injectés directement dans l'ovocyte de leur compagne. Le problème, c'est que dans un certain nombre de cas, on fait une biopsie testiculaire à ces hommes et on ne trouve pas de spermatozoïdes parce qu'ils ont un blocage de la spermatogénèse au cours d'une ou plusieurs étapes. Donc nous, ce qu'on espère, c'est que mettant leurs cellules de Sertoli et germinales immatures dans un milieu adéquate, on va pouvoir lever ces blocages de manière à faire leurs propres spermatozoïdes in vitro. Alors juste un petit point, c'est que pour les petits garçons, il y a déjà un projet hospitalier de recherche clinique qui avait été lancé en 2008. Et donc, quand il y a une préconisation du groupe médical, on prend à ces petits enfants, à l'occasion d'une autre opération, un petit morceau de testicule qui est congelé.
Donc j'imagine que c'est un vrai espoir pour les personnes concernées. Est-ce que vous avez déjà eu des volontaires ou est-ce qu'on en est encore loin ?
Il y a deux choses. L'espoir, depuis le mois de mai, on a reçu entre 200 et 300 mails
du monde entier
de couples infertiles qui nous disent « mais moi je suis prêt à être un cobaye chez vous ». Alors maintenant, il est bien évident que là on en est à l'étape d'achèvement d'une partie de recherche un peu fondamentale. Maintenant, il faut que l'on s'assure que ces spermatozoïdes formés in vitro, ils sont corrects. Alors ça se fait sur deux aspects, c'est-à-dire que chez les rats, on va prendre ces spermatozoïdes, on va essayer de faire des petits ratons et on va étudier le devenir de ces petits ratons d'un point de vue physiopathologique et d'un point de vue comportemental. Il est bien évident qu'on ne va pas s'amuser à faire un bébé directement avec un spermatozoïde humain. Donc on sait qu'il y a un certain nombre de méthodologies d'approche biochimique pour s'assurer que la génétique de ces gamètes humains, l'épigénétique, qui est très important aussi, est normale. Donc c'est pour ça que là, on a pris langue avec les organismes réglementaires, type agence de biomédecine ou autre, pour qu'on dialogue, qu'on échange avec eux, qu'on leur dise voilà ce que nous, on peut vous apporter comme preuve, qu'est-ce que vous souhaitez, de manière à faire ce développement jusqu'à ce qu'on ait l'autorisation de passer en une application clinique.
Et justement, d'ici combien de temps
Disons que si tout marche bien, qu'on arrive à lever des fonds et que les manips marchent bien, disons qu'on estime ça à 3-5 ans.
D'accord, parce que du coup, justement, ces études ont un coût. Le traitement pourrait représenter un marché de 2,3 milliards d'euros. Mais paradoxalement, vous êtes pour l'heure à la recherche de 2 millions d'euros.
Tout à fait, parce qu'il est bien évident que rien que les études de comportement et de physiopathologie des petits ratons, ça coûte extrêmement cher parce que la normalisation veut que ça soit réalisé sur un nombre important d'animaux. Et il y a ce qu'on appelle des CRO, des Contract Research Organization, des gens qui offrent comme service d'étudier ce genre de choses, soit la physiopathologie, soit le comportement. Évidemment, ces études ont un coût.
Et ça passe par quoi ? Par une levée de fonds ou...
Ça passe obligatoirement par une levée de fonds.
De quel type ?
Bah, soit 2 millions d'euros, ça passe soit par un fonds d'investissement, soit par un industriel qui s'intéresse à notre technique et à la limite qui pourrait nous intégrer dans un projet plus grand, soit par des business angels, comme on dit, mais c'est vrai que 2 millions d'euros, ça ne se trouve pas si facilement que ça.
C'est ça qui coince en ce moment.
C'est ça qui coince en ce moment, tout à fait.
Et ensuite viendra la phase de commercialisation, ce sera d'ici combien de temps et à quel prix ?
Ah. Alors, ce que je vous dis, la phase de commercialisation, on espère, 5 à 6 ans. À quel prix ? Alors là, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Ce que nous, on souhaite, c'est un vœu pieux de chercheurs. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que finalement, ça soit quelque chose dont le coût soit compatible avec un remboursement sécurité sociale. C'est pour ça que c'est important aussi que l'on discute avec les gens des organismes réglementaires pour voir comment on peut optimiser aussi nos méthodologies pour les rendre accessibles à un prix qui ne soit pas prohibitif.
Merci Philippe Durand, notre entretien est à retrouver sur lionmag.com.
Merci à vous.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lionmag.com.